Europe Soir,
le 18-20.
Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. À 18h20, on parlera tourisme ce soir avec notre invité qui est le nouveau directeur général d'un géant français du secteur, le groupe Pierre et Vacances. Franck Gervais sera notre invité. Comment le secteur du tourisme peut-il se remettre d'une telle crise? On lui posera la question. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Marine Le Pen face à Gérald Darmanin, c'est l'émission politique ce soir sur France 2. Que faut-il en attendre? Eh bien, on en parlera. Et puis 19h20, le grand débat du Club des idées consacré ce soir au Made in France. Est-il possible de fabriquer français et d'être concurrentiel surtout? Vêtements, vélos, électroménagers. Les Français veulent un retour au local, c'est vrai, mais sont-ils prêts à en payer le prix? Eh bien, on en parlera avec nos invités tout à l'heure à partir de 19h15. Donc d'abord le journal avec Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Le test salivaire, évidemment, beaucoup plus facile d'accès. Et donc, nous avons décidé de le déployer d'abord, on le comprend bien, en direction des enfants.
Et c'est parti donc, feu vert officiel pour les tests salivaires.
Ils vont permettre des dépistages massifs dans les écoles dès la rentrée.
Le froid polaire qui s'est installé sur la France fait craindre le pire pour les SDF. Certains continuent à dormir dans la rue.
Neymar absent pour 4 semaines. Ça veut dire que la star du PSG ne jouera pas mardi face au Barça, le 8e de finale aller de la Ligue des Champions.
Darmanin, Le Pen, débat très attendu ce soir au menu. Séparatisme, migration, insécurité, des sujets que maîtrisent aussi bien le ministre de l'Intérieur que la patronne du Rassemblement National.
Et puis Marina Foïs, la maîtresse de cérémonie des Césars, se prépare et elle compte bien mettre de l'ambiance le 12 mars, malgré la situation. On n'organise pas, dit-elle, une soirée pour chouiner.
La Bourse de Paris a terminé ce soir à l'équilibre, moins 0,02% à 5 669 points.
La météo avec Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Les vigilances s'étendent encore un peu plus à l'est.
Oui, nous avons beaucoup de départements vigilance, de la Bretagne jusqu'au Alpes, en passant par la Creuse, l'Allier ou encore le Puy-de-Dôme, 22 départements vigilance neige verglas, 13 départements du Grand Est toujours en vigilance grand froid. Demain, un nouvel épisode neigeux important arrive. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et désormais, les dépistages dans les écoles devraient donc être facilités avec l'arrivée des fameux tests salivaires.
Oui, la Haute Autorité de Santé a donc donné son feu vert officiellement, une campagne de dépistage sur laquelle mise beaucoup le gouvernement.
Jean Castex et Olivier Véran sont d'ailleurs venus en faire la promotion, entre guillemets, cet après-midi dans une école du 13e arrondissement de Paris. Le ministre de la Santé a pris le temps de dialoguer avec des enfants qui, dès aujourd'hui, ont pu expérimenter ces nouveaux tests.
Alors ce test, c'était rigolo ou pas du tout?
Ça allait, c'est juste que parfois j'avais du mal à manger.
Parfois, tu avais du mal à
cracher.
À cracher, ah ouais, c'est pas si simple. Hein. C'est plus facile dans la cour de récré que.
Voilà, alors là, c'était vraiment le tout début hein, avec ces enfants. L'objectif du gouvernement, c'est 200 000 tests par semaine. Ça paraît beaucoup, mais finalement, c'est assez peu, Anne Le Gall.
Oui, 200 000 tests salivaires par semaine pour 12 millions d'élèves, ça paraît peu. Mais le but, c'est de faire du dépistage ciblé et donc de réserver ces tests plus simples d'utilisation à des établissements scolaires dans lesquels il y a des clusters ou des risques plus élevés de contamination. Ces tests seront d'ailleurs aussi déployés rapidement pour du dépistage dans les EHPAD ou les hôpitaux, car après quelques optimisations techniques, ils sont désormais considérés comme fiables. Avec une sensibilité de 85%, ils sont presque aussi efficaces pour détecter le virus que les tests nasopharyngés qui ont une sensibilité de 92%. Et l'avantage avec le test salivaire, c'est qu'il n'y a plus besoin de personnel formé pour introduire l'écouvillon dans le nez. Il suffit de saliver dans un tube. Les personnes contacts pourront aussi bientôt faire ce test en laboratoire, voire à domicile après avoir récupéré un kit d'autoprélèvement. Et pour les résultats, il faudra ensuite attendre 24 heures car il faudra toujours passer par l'analyse RT-PCR en laboratoire.
Les précisions d'Anne Le spécialiste santé d'Europe 1.
La vague de froid qui touche la France actuellement est évidemment particulièrement préoccupante pour les sans-abri.
Et pourtant, il y a des places d'hébergement qui ont été libérées en urgence un peu partout dans le pays. Malgré cela, il y a encore des femmes et des hommes qui dorment dans la rue et qui luttent pour leur survie. Théo Manval, vous avez passé la journée à leur côté.
Oui, comme Fabrice et Alex, sous de grosses couvertures le long d'un boulevard parisien.
Franchement, c'est vrai que ça caille depuis avant-hier. Alex a tapé ici contre la vitre.
Ces jours-ci et ces nuits, ils se réchauffent comme ils peuvent.
Beaucoup de café, beaucoup de thé.
On a le réchaud. C'est super capital pour pouvoir manger chaud de ce temps-là. Quoi.
Être hébergé, pourtant, ils aimeraient bien. Mais soir après soir, leurs appels sonnent dans le vide.
115, parfois on peut attendre une heure et demie au téléphone. C'est dur, c'est franchement...
Moi, je les appelle plus parce qu'ils répondent jamais au téléphone. Nous, on n'est pas prioritaire, parce qu'il n'y a pas de structure qui prenne avec les chiens. C'est comment ? On attend de crever.
Depuis lundi, pourtant, 1200 personnes ont été mises à l'abri à Paris. 700 nouvelles places d'hébergement ouvertes, mais le standard reste submergé.
Pour le 115, on a eu une augmentation d'environ 20% des appels.
Sabrina Boulfrad est directrice du service d'accueil et d'orientation.
Cependant, aujourd'hui, on est à peine 18% de demandes non pourvues sur toutes les personnes qui ont réussi à nous joindre, contre habituellement 35, voire des pics à 50%. Donc là, on a un taux de demande non pourvue extrêmement bas.
Mais qui reste donc d'environ 1 sur 5, tandis qu'au froid mordant s'ajoute le couvre-feu, rappelle Fabrice.
Beaucoup moins de gens dans les rues à partir de 18h, c'est mort, ça y est, on est libre à nous-mêmes, c'est une galère. Beaucoup plus de solitude parce que du coup, les gens ne viennent pas nous voir. Et c'est dommage, et oubliez-moi pas.
Côté température, il attend dimanche. On annonce un léger redoux.
Le reportage de Théo Manval dans les rues de Paris pour Europe 1.
Oui, Anissa Dadi nous dira évidemment ce qu'il faut attendre et qu'il va faire encore très très froid dans les prochaines heures à la fin du journal. Le gouvernement enterre un projet à 7 milliards d'euros.
L'extension de l'aéroport international de Roissy ne se fera pas. Chantier pas en phase avec la lutte contre le réchauffement climatique, explique la ministre de la Transition écologique. Ce projet devait permettre d'augmenter la capacité d'accueil de l'aéroport de 40 millions de passagers par an.
Et on y reviendra tout à l'heure dans le journal de 19h.
Le chef de l'État à Nantes aujourd'hui pour présenter ses mesures en faveur de l'égalité des chances, qui prévoit entre autres la création de 1000 classes prépa intégrées pour aider les jeunes issus de milieux défavorisés à accéder aux meilleures écoles.
Une information importante à retenir si vous embauchez par exemple chez vous une femme de ménage, une nounou ou un jardinier.
Et oui, vous n'aurez plus à attendre un an avant de bénéficier de votre crédit d'impôt.
Olivier Samin, ça veut dire concrètement qu'il n'y aura plus de décalage.
Oui, aujourd'hui, si vous employez par exemple une nounou ou une femme de ménage ou si vous faites appel à un prestataire qui offre ce service, vous avez droit à un crédit d'impôt égal à 50% de la dépense que vous engagez pour payer son salaire. Mais effectivement, ce crédit d'impôt, vous devez attendre l'année suivante pour le percevoir. Vous recevez d'abord un acompte au mois de janvier et le solde dans le courant de l'été, le temps que l'administration fiscale ait pu traiter votre déclaration de revenus. C'est ça qui va changer à partir du début de l'année prochaine. Olivier Dussopt a confirmé qu'en février 2022, et peut-être même dès janvier, vous n'aurez plus à verser la totalité de la dépense chaque mois quand vous payez votre nounou ou votre femme de ménage, mais simplement la moitié, puisque l'autre moitié, ce sera le crédit d'impôt qui arrivera en même temps sous forme de tiers payant. C'est un changement de taille qui, a dit le ministre, devrait permettre d'augmenter le recours aux services à domicile et de lutter contre le travail au noir. Une expérimentation a démarré il y a quelques mois dans le département du Nord et en Île-de-France, expérimentation auprès d'un peu plus d'une centaine de familles, et apparemment ça fonctionne, d'où la généralisation envisagée pour 2022.
Olivier Samin du service Éco d'Europe 1. Et puis autre info importante, pas de crainte à avoir si vous avez recours à des services d'aide à la personne dont une partie est effectuée en dehors de votre domicile, par exemple une nounou qui va chercher vos enfants à l'école ou les emmène au foot. Un arrêt du Conseil d'État avait semé le trouble il y a 2 mois. Il disait que le crédit d'impôt ne s'appliquerait qu'aux prestations réalisées à l'intérieur du domicile. Et bien finalement, on ne touche à rien.
Le président du Centre national du cinéma, le fameux CNC Dominique Boutonnat, mis en examen cet après-midi.
Pour agression sexuelle et tentative de viol sur son filleul, il a été placé sous contrôle judiciaire. La fille aînée de Richard Berry a, elle, été entendue ce matin par les enquêteurs. Elle accuse son père d'inceste quand elle était adolescente, des faits contestés par le comédien.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, c'est donc un coup dur pour Paris. La star du PSG, Neymar, sera absente pour le duel face au Barça mardi prochain en Ligue des Champions.
8e de finale. Allez, le verdict est tombé cet après-midi, Julien Frobon.
Oui, exactement. 4 semaines, c'est la durée de l'indisponibilité de Neymar. C'est ce qu'a annoncé le Paris Saint-Germain. Résultat, vous l'avez dit, il est d'ores et déjà forfait pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions mardi prochain contre le Barça et peut-être même pour le retour prévu le 10 mars. Il va falloir un miracle. C'est déjà la 4e fois que le Brésilien manque un 8e de finale avec Paris. Alors, même si hier soir à Caen, il a eu droit, on va dire, à un traitement de faveur de la part de la défense cannaise, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino aurait peut-être dû le ménager. En tout cas, après le match, il ne regrettait pas son choix.
Non. Hoy en día en Francia, cuando juegas en...
Par rapport au terrain, le terrain aujourd'hui, il était en condition. En France, dans cette période de l'année, on a joué dans d'autres terrains aussi qui étaient difficiles. Mais aujourd'hui, il était parfaitement apte pour jouer.
Perfecta condiciones para jugar.
Alors c'est là, c'est une mauvaise habitude, hein, à l'approche des matchs qui comptent, le Paris Saint-Germain se transforme en poisse Saint-Germain, car en plus de l'absence de Neymar, le PSG contre le Barça devra faire sans l'ailier argentin André Di Maria.
Merci quand même Julien Froment.
Autre duel en vue, et là on ne parle pas de foot, Marine Le Pen et Gérald Darmanin s'affrontent donc ce soir sur France 2 dans l'émission Vous avez la parole.
La candidate du Rassemblement National face au ministre de l'Intérieur, un débat qui ressemble fort à un galop d'essai avant la présidentielle de 2022, Aurélie Herbemont.
Et oui, un débat entre les deux forces politiques qui sont en tête dans les sondages et sur des thématiques, laïcité, immigration, sécurité, qui pèseront dans la campagne. Ça, ils en sont tous les deux convaincus. Marine Le Pen a un enjeu ce soir, apparaître crédible et posée. Bref, faire présidente pour que les téléspectateurs oublient son débat raté face à Emmanuel Macron en 2017. Elle arrive avec son contre-projet sur le séparatisme et va chercher à montrer que l'exécutif ne mène pas une politique à la hauteur des enjeux. Quant à Gérald Darmanin, eh bien il jouera un peu les doublures d'Emmanuel Macron avec sa casquette de premier flic de France, censé maintenir captif l'électorat de droite et faire barrage au RN. Son objectif, montrer que le programme lepéniste n'est pas la solution et défendre l'action régalienne du chef de l'État. À 14 mois de la présidentielle, aucun des deux n'a droit à l'erreur. A fortiori, au regard de certains sondages montrant qu'une victoire de Marine Le Pen au second tour n'est plus inconcevable.
Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1.
Alors, on vous dévoilait hier les nominations pour les Césars du cinéma qui se tiendront le 12 mars. Aujourd'hui, c'est la maîtresse de cérémonie, Marina Foïs, qui s'est dévoilée.
Et elle a fait une promesse, on ne va pas s'ennuyer, elle ne s'interdira rien.
Bah, c'est quand même aux enterrements qu'on rit le plus, hein. C'est pas au mariage. Moi, l'année blanche, je la comprends pour les intermittents. Je ne la comprends pas pour la cérémonie des Césars. Quel sens ça a de disparaître dans cette année où on nous empêche d'exister ? Ça ne m'a pas traversé une seconde l'idée de dire on ne fait pas cette cérémonie, pourquoi ? En plus, je trouve que nous, gens de cinéma, on a, grâce à cette cérémonie, on a une fenêtre pour exister, que plein d'autres arts et plein d'autres gens n'ont pas. Ça voudrait dire quoi de ne pas être là ? D'autant plus que cette soirée, elle sera l'occasion de dire plein de choses sur plein de registres différents. Moi, je ne vais pas organiser un meeting politique, ce n'est pas mon travail. En revanche, il y a des gens qui vont monter sur scène et qui auront certainement plein de choses à dire. Et je trouve qu'écouter la multiplicité des points de vue sur ce sujet-là et sur cette crise-là, il me semble que c'est plus... Tant qu'on arrive à être digne, on n'organise pas une soirée pour chouiner.
Marina Foïs, la prochaine maîtresse de cérémonie des Césars, au micro de Diane Chénouda. Rapidement, en ski, le Français Alexis Pinturo s'est classé 3e aujourd'hui du Super G des Mondiaux à Cortina d'Ampezzo, en Italie. En tennis, à l'Open d'Australie, Kristina Mladenovic s'est qualifiée pour les 16e de finale. Elle rejoint Fiona Ferro et Adrian Manarino, qualification également de Rafael Nadal. Puis dans le Vendée Globe, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, le Japonais Shireishi est arrivé cet après-midi après 94 jours de mer. Il devient le premier Asiatique à terminer la course. Et juste avant lui, Arnaud Boissière a lui aussi franchi la ligne d'arrivée. Il boucle son 4e Tour du Monde en solitaire d'affilée. C'est une performance inédite dans l'histoire du Vendée Globe.
Et je crois que ce n'est pas fini, il y a encore du monde
oui, hein,
qui va arriver. Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. La météo, Anissa Haddadi, avec le retour d'un important épisode de neige. Demain, on pensait que c'était terminé, ben ça continue.
Ben non, ouais. Il y a la neige qui est de retour effectivement. Alors ça va concerner
les
régions du nord du Massif central aux Alpes, des régions qui n'ont pas été touchées ces derniers jours. Donc là, la neige, elle se déplace. Donc du nord du Massif central aux Alpes et jusqu'aux Alpes du Sud, une perturbation neigeuse va donc toucher de nombreux départements. Avec de la Creuse à la Savoie, 12 départements ce soir placés en vigilance orange, neige, verglas. De fortes chutes de neige sont attendues demain, en particulier sur Lyon. Attention, cet épisode neigeux sera accompagné de pluies verglaçantes, donc il va falloir vraiment faire très attention dans le secteur. Dans le nord-ouest du Finistère, à l'Indre, 10 départements là en vigilance orange, neige, verglas aussi. Une perturbation va arriver demain par la façade ouest avec de la neige et des pluies verglaçantes jusqu'en Occitanie. Demain, c'est une nouvelle fois au nord de la France, au nord de la Loire, que la journée sera la plus agréable, avec en Normandie, sur les Hauts-de-France, en région parisienne et dans le Grand Est, un soleil très généreux qui va briller dans une atmosphère glaciale avec moins 10 degrés à Strasbourg, moins 8 à Nancy, moins 7 à Lille, moins 6 à Reims, moins 4 pour Paris, moins 2 à Rennes et Saint-Étienne, et 0 à Brest. Et de compter 2 à 9 degrés pour la moitié sud, où là il fait beaucoup plus doux. Hein.
Bien. Vous nous parlerez peut-être du week-end tout à l'heure, c'est important. À partir du jeudi, on commence à faire sa prévision de week-end.
Bien
merci Anissa, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invité à 18h16, il est le nouveau directeur général du groupe Pierre et Vacances, fleuron de l'hôtellerie, qui ne va pas très fort en ce moment, on va en parler. Bonsoir Franck Gervais.
Bonsoir Julien.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors d'abord, comment s'annoncent ces vacances d'hiver? Je regardais les derniers chiffres tout à l'heure, avant de rentrer en studio, de réservation. Et a priori, globalement, ça s'annonce plutôt mieux que prévu. Est-ce que vous le confirmez?
Alors c'est ça, ça s'annonce mieux que prévu pour deux raisons. C'est que la première bonne nouvelle, c'est que les clients qui avaient réservé avant les annonces du Premier ministre la semaine dernière...
En pensant que les remontées mécaniques ouvriraient.
Pensant que les remontées ouvriraient, bah, ces gens-là ont confirmé pour plus de 30% d'entre eux quand même leur séjour. Donc ça c'est bien. Et puis après cette annonce, eh bien, ce qu'on a vu, c'est que on a des nouvelles demandes de réservation et typiquement cette semaine-ci nous donne plus de réservations effectuées que la même semaine il y a un an.
C'est plutôt de la dernière minute alors.
Donc c'est exactement de la dernière minute. Ce que regardent pour deux tiers de nos clients en ce moment, ce qu'ils regardent, c'est vraiment de la dernière minute. Et donc on a bon espoir. Nous, on a réouvert en fait 50 résidences dans 25 stations pour les vacances.
Oui.
Et on a bon espoir d'arriver à des taux d'occupation aux alentours des 30%. Donc ce n'est pas du tout les 90% qu'on a usuellement.
Mais c'est plutôt mieux que pour les vacances de Noël.
C'est mieux.
C'est grâce aux promotions aussi, j'imagine. J'ai vu qu'il y avait tout un tas de promotions qui étaient faites par les groupes hôteliers. Et vous notamment, je crois que vous proposez 30% de baisse de tarifs sur les locations.
C'est ça. Et en fait, on se dit, il faut être honnête avec tout le monde. Ce n'est pas exactement les mêmes vacances. Certes, il y a des activités nouvelles, raquettes, rando, des activités insolites. On est traîné à ski par des chevaux, par exemple.
C'est
du ski de jury.
C'est la même chose que descendre une
piste
noire.
Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on s'est dit, il faut être très fair play avec les clients, faire une promo à moins 30%, et c'est exactement ce qui est attendu, donc c'est bien.
Question précise, Franck Gervais, est-ce que tous ceux qui ont réservé chez vous, est-ce qu'ils peuvent annuler s'ils souhaitent jusqu'à la dernière minute? C'est ce qu'avait promis le gouvernement, est-ce que ça sera le cas?
Absolument, c'est le cas, ça a été le cas dès le premier jour en ce qui nous concerne. On a voulu vraiment jouer cette flexibilité à plein, et c'est très apprécié.
Bien, on va parler du groupe maintenant. Pierre et Vacances, qui est un mastodonte, avec Center Park notamment, qui exploite plus de 45 000 appartements et maisons, un peu partout en Europe, présent dans un certain nombre de pays. Alors l'activité du groupe, c'est vrai, a fondu d'une moitié, et on comprend pourquoi, entre octobre et décembre, au dernier trimestre de l'année passée. Le cours de l'action est au plus bas. D'abord, est-ce que ce redressement peut se faire sans l'économie d'un plan social? Vous avez aujourd'hui, je crois, 12 600 salariés en Europe, et vous avez dit assez récemment qu'avec le Covid, vous arrivez désormais à travailler à peu près de la même façon, avec moins de personnes. Donc forcément, on entend plan social.
Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler d'abord, hein, c'est que c'est un groupe dont les marques, le positionnement sont exactement dans l'axe de ce qui est souhaité par les clients. On a un tourisme local, authentique, familial, proche de chez soi, avec des activités de plaisir. Donc, c'est exactement ce qui est attendu. Et les clients nous le disent parce que quand on est autorisé à ouvrir, on fait plus 10% par rapport à l'année passée, ce qui est gigantesque. Maintenant, j'ai regardé sur les 12 derniers mois. En Europe, on est présent dans 5 pays européens, on est le leader en Europe du tourisme de proximité. Sur les 12 derniers mois, il y a 7 mois où on n'a pas été autorisé à ouvrir, ou bien alors dans des conditions telles qu'il n'y a pas la piscine dans les Center Park et il n'y a pas les remontées mécaniques au ski. 7 mois sur 12. Donc forcément, ça génère un chiffre d'affaires plus faible que prévu, des pertes. Et donc forcément, ça nécessite surtout quelque chose qui est des aides très fortes pour soutenir le secteur, parce que c'est le secteur du tourisme qui a absolument besoin d'être soutenu par les acteurs publics en
particulier. Mais globalement, quand on s'aperçoit qu'on peut faire aussi bien avec moins de gens et qu'on est en difficulté et que le cours de bourse est au plus bas, normalement ça passe par un plan social.
Non, vous savez, il y a des travaux qui ont été menés l'année dernière là-dessus pour améliorer la performance, mais non, clairement, ce n'est pas la priorité. Nous, notre priorité, c'est vraiment, et nos collaborateurs là-dessus l'attendent de pied ferme, c'est de pouvoir accueillir de nouveau les clients dans les parcs, et c'est vraiment ça qui est notre priorité aujourd'hui.
Combien vous perdez aujourd'hui chaque jour avec cette crise?
Alors, l'an passé, le groupe a perdu 350 millions de chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant, dû au seul Covid, donc sur 1,7 milliard de chiffre d'affaires, on en a fait en fait 1,3 milliard, donc 350 millions en moins. Et donc, il y a une perte de 200 millions en termes de résultats. Et il faut bien voir que dès qu'on était ouvert, on a mieux performé que l'année d'avant. Simplement, pendant toute une période où on n'est pas ouvert, on comprend que ça ne peut pas marcher.
Oui, vous étiez chez Accor avant Franck Gervais, vous avez été appelé au secours d'une certaine manière pour redresser le groupe. Quand on est un capitaine d'industrie comme vous, Est-ce qu'on a la pression quand on est face à un tel enjeu?
Le mot-clé, je pense, c'est le mot de combat, de challenge. Parce que voilà un groupe magnifique fondé il y a 50 ans par Gérard Brémond, connu de tout le monde. Tout le monde a passé, je pense que vous avez passé forcément des vacances dans des pires vacances. C'est 13 000 emplois, c'est 5 000 emplois en France. Et on est au cœur, on est avec un leader européen. Et donc l'enjeu, c'est quoi? C'est d'aller le porter plus loin, de le projeter, qu'il soit toujours plus leader dans 5 ans et d'affronter une crise comme celle-ci.
Mais au-delà du discours, vous, personnellement, est-ce que...
C'est exactement ça. C'est une vraie volonté de combattant, de challenge et de relever ça.
Oui.
Et vous savez quoi? Je suis persuadé,
mais c'est alors à 100%... C'est pour ça que vous avez accepté?
Et c'est pour ça que je l'ai accepté. Je suis persuadé à 100% que ce groupe sortira plus fort de cette crise.
Bien. On verra. C'est votre enjeu.
Absolument.
Et je vous le souhaite. Il y a aussi la question de vos propriétaires. Alors, pour que chacun comprenne, dans vos center parks, les cottages appartiennent à des Français qui ont investi et vous les louez ensuite à vos clients, pour faire simple. 740 d'entre eux vous attaquent aujourd'hui en justice car vous n'avez pas payé, disent-ils, les loyers au moment du premier confinement. Et ça sera peut-être le cas pour le second. Alors, évidemment, ça pose la question du modèle économique. Si le contrat de confiance est rompu, ça ne fonctionne plus. Que leur répondez-vous à tous ces propriétaires ?
Alors, il y a quelque chose qui s'est passé, qui ne vous a pas échappé, c'est le Covid, qui a mis à bas tout un secteur, celui du tourisme. Nous, on a 90% de nos employés en chômage partiel, on a essuyé des pertes, et on a l'an passé honoré tous nos contrats de location en dehors des périodes de fermeture administrative, et c'est d'ailleurs ce que nos propriétaires ont approuvé pour plus de la moitié d'entre eux, en disant, oui, ça c'est logique et on fait. Voilà, ça c'est la situation. Quand depuis le 1er novembre, tout est fermé, les center parks, les résidences pires et vacances, eh bien, on se dit, on est arrivé au maximum de tous les efforts qu'on pouvait faire, nous, un groupe comme le nôtre, et donc il faut se mettre tous ensemble autour de la table, se réunir pour trouver des solutions, et ça, on va le trouver dans une vraie logique de discussion, gagnant-gagnant, et c'est pas en jouant les uns contre les autres qu'on
va
y arriver.
Au bout du bout, vous allez indemniser ces propriétaires, parce qu'évidemment, pour eux aussi, c'est un manque de pouvoir d'achat, c'est un investissement pour eux. Ce sont des petits propriétaires qui voient passer sous le nez 2000, 3000, 4000, jusqu'à 5000 euros.
Au bout du bout, ce qui est certain, c'est qu'évidemment, on va trouver des solutions, et de nouveau, on va les trouver ensemble, en discutant de ce qui est possible, et chacun doit faire des efforts, un pas vers l'autre, et à ce moment-là, on trouvera cette solution entre tous les acteurs réunis autour de la
table. Mais c'est vrai que votre business model repose sur ce contrat de confiance entre vous, le gestionnaire, et ses propriétaires qui investissent. C'est la garantie de votre business model, d'une certaine manière, sur les cottage center park.
Oui, et d'ailleurs, c'est ce qui fait que ça a marché depuis 50 ans. Nos propriétaires nous disent, on est ravis d'être des propriétaires de cottage center park, de résidences pires et vacances. Donc, à l'échelle de temps, 50 ans, et puis là, il y a depuis un an quelque chose de nouveau qu'il faut qu'on reconsidère et qu'on rediscute en se disant, il y a eu 50 ans magnifiques, là, une année difficile. Soyons tous ensemble dans cette solidarité.
J'insiste un peu, sans révéler de secret de fabrication, il y aura un dédommagement ou pas ?
Ce qu'il va y avoir, c'est une procédure qui est une procédure de conciliation où on va, à partir de la semaine prochaine, regarder qui est dans ce périmètre de conciliation, donc de discussion. Et donc, c'est des discussions qui vont prendre quelques semaines, quelques mois, dont je ne peux pas vous donner les conclusions par avance, par définition.
Bien. Au-delà de la crise, pourquoi le groupe ne va pas bien en ce moment ?
Alors, le groupe va bien, donc je ne sais pas pourquoi vous me dites que le groupe ne va pas bien en ce moment. Le groupe, il va très bien. Il a un résultat opérationnel qui est un résultat opérationnel positif. Effectivement, il y a eu des résultats nets négatifs du fait de ce qu'on appelle des éléments exceptionnels. Mais sinon, c'est un groupe qui va bien parce que ses marques se portent très très bien. Qui a, je vais vous donner deux chiffres, 70% de la clientèle est une clientèle famille. 60% de nos clients sont des clients fidèles qui reviennent tous les 18 mois dans nos installations. Et puis, on a 80% de ce qu'on vend qui est en direct. On ne passe pas par des grandes plateformes américaines, chinoises, 80% en direct. Donc, on a exactement ce qu'il faut comme positionnement, comme offre. Après, ce qu'il faut, c'est qu'on soit simplement autorisé à ouvrir. Et dès qu'on l'est, ça marche très, très bien.
Non, je ne vous disais pas bien, parce que c'est vrai qu'il y a eu des pertes très, très importantes sur l'année passée, liées en partie à la crise, et puis que le cours de bourse a dévissé. C'est vrai qu'on est au plus bas aujourd'hui. Et quand on est un groupe coté, le cours de bourse est important pour les investisseurs.
C'est vrai, mais vous savez, comme tout le secteur, il y a un chiffre que personne ne connaît, n'a en tête. Vous prenez le secteur de l'aérien dans le tourisme. On est revenu dans l'aérien au trafic de 1970. Oui. Donc on ne parle pas de ça pour nous. Mais c'est tout un secteur qui est complètement chahuté.
Franck Gervais, est-ce que vous croyez encore au développement des center parks?
Absolument. Alors j'y crois d'autant plus qu'il y a deux prochains center parks qui vont ouvrir et qu'on va inaugurer. Un en Belgique, ça c'est en juin prochain.
Oui.
Et puis un autre en France, dans le Lot-et-Garonne, ça c'est en juin 2022, avec un magnifique concept qui est un éco-concept, avec beaucoup de bois, beaucoup autour de tout ce qui est nourriture, tout sera localement approvisionné. Et donc on va être voilà, au cœur de la nature, en plein respect de l'environnement, donc j'y crois, selon des modèles qui effectivement évoluent avec leur temps.
Et le village nature, c'est toujours d'actualité, 260 hectares, 700 millions de budget, c'est à côté d'Euro Disney, je crois, c'est ça.
C'est juste à côté d'Euro Disney, la moitié de nos clients au village nature passent une journée sur deux à Euro Disney, et en fait vous avez le cœur de la nature à côté d'Euro Disney, donc ouais. J'invite vraiment tous les Franciliens qui n'y seraient pas encore allés à aller voir. On est au cœur de ce qu'on fait de mieux d'un point de vue la nature à proximité de Paris.
Est-ce qu'il y a ça sera ma dernière question, est-ce qu'il y a un nouveau modèle à inventer de tourisme au-delà de ce que vous allez continuer à développer, les centres parcs, le local, les villages nature, est-ce qu'il y a un nouveau levier sur lequel vous allez jouer, vous ?
Ouais, je suis persuadé que cette crise a accéléré des tendances. Ça vaut dans plein de secteurs, ça vaut pour le tourisme. Et donc les tendances, elles sont autour de l'authenticité.
Oui.
La localité, vous n'irez vous n'irez plus à des dizaines de milliers de kilomètres pour aller voir des choses. Et les gens vont vouloir aller localement, rester proche de chez eux, prendre du plaisir et surtout donner du sens à leurs vacances. On parle beaucoup d'expérience. Je pense que le mot sens va avoir de plus en plus d'importance par rapport au mot expérience.
Bien. Eh bien, j'espère que vous reviendrez pour nous présenter tout ça. Merci infiniment, Franck Gervais, d'avoir été ce soir notre invité, donc directeur général du groupe Pierre et Vacances. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bouchy.
18h30, le rappel des titres avec Isabelle Millet.
Et les premiers tests salivaires sont arrivés. Leur utilisation est validée par la Haute Autorité de Santé. Cette méthode sera déployée dans les écoles au retour des vacances de février. Objectif, pouvoir en réaliser 200 000 chaque semaine. Le projet d'extension de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, abandonné, obsolète à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique, dit la ministre de la Transition écologique. Projet à 7 milliards d'euros. Emmanuel Macron veut ouvrir les grandes écoles aux étudiants d'origine plus modeste. Il annonce une réforme du processus d'accès pour davantage de diversité. Dominique Boutonnat, le président du Centre national du cinéma, mis en examen pour l'agression sexuelle et la tentative de viol sur son filleul. Il est placé sous contrôle judiciaire. Et puis Neymar ne jouera pas le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Barça. Il souffre des adducteurs. C'est un gros coup dur pour le PSG.
Merci Isabelle. À tout à l'heure, 19h pour le journal. La météo avec Anissa, de la neige et encore de la neige. Voilà le programme à peu près pour demain.
Oui, cette fois-ci, Julien, c'est le centre-est, la vallée du Rhône et les Alpes qui seront les régions les plus touchées avec de fortes chutes de neige en plaine. La capitale des Gaules sera bien touchée avec un épisode neigeux que Lyon n'avait pas connu depuis plus de 10 ans. Dans l'ouest, nous avons une perturbation pluvieuse qui va provoquer des pluies verglaçantes dans le sud-ouest en particulier, l'Occitanie, le Limousin, une partie du Massif central. Et sur la Bretagne demain matin, attention, si vous prenez la route, ça risque de glisser. Ailleurs, au nord de la Loire notamment, en Normandie, région parisienne, Hauts-de-France et Grand Est, là, c'est une journée qui va se dérouler au sec, sous le soleil, une journée très agréable, mais toujours dans le froid, avec moins 10 degrés à Strasbourg, moins 9 à Belfort, moins 7 à Lille, moins 4 pour Paris demain matin, moins 2 à Rennes et Lyon, et jusqu'à 9 degrés sur la moitié sud. Demain après-midi, nous aurons toujours des gelées l'après-midi dans le nord, avec moins 2 à 3 degrés et 5 à 15 degrés sur la moitié sud.
Mais ça monte. Vous m'avez dit entre 5 et 6 degrés tout à l'heure.
Non, entre 5 et 15.
Alors, j'essaie de vous avoir.
En revanche, le redoux est prévu pour la semaine prochaine.
Ah, voyez quand oui, vous voulez. Merci Anissa. Enfin une bonne nouvelle. À tout à l'heure, on vous retrouve à 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bouchy.
18h32, place au débat des grandes voix du jeudi avec ce soir à mes côtés Michel Cotta. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Claire Chartier, bonsoir Claire, rédactrice en chef débat et idées à l'Express. Et Franz-Olivier Gisbert, bonsoir Franz.
Bonsoir.
Écrivain, éditorialiste évidemment au Point. Alors ce soir, on va parler de ce duel, le duel du jour, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin face à Marine Le Pen. C'est sur France 2 dans l'émission Vous avez la parole. 45 minutes de confrontation pour parler de la lutte contre l'islamisme politique et la politique sécuritaire du gouvernement. À 14 mois de la présidentielle, certains y voient déjà le premier acte du duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Alors c'est vrai qu'entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen, il y a déjà un certain passif. Écoutez.
Madame Le Pen, c'est l'irresponsabilité faite femme. Madame Le Pen, je le dis avec franchise, n'a jamais voté une disposition en 3 ans pour renforcer la sécurité des Français. Parce que Madame Le Pen, elle a une petite PME qui consiste simplement à faire des discours, à parler et à pouvoir espérer que des problèmes perdurent.
Voilà, Marine Le Pen s'exprime aussi sur Gérald Darmanin et sur l'action du gouvernement. Elle dit ceci, par exemple.
Quand c'est nul,
quand ça ne sert à rien, quand nous savons à l'avance que ça va être inefficace. Donc ça s'appelle l'opposition, c'est pas très grave. Et évidemment, lorsque nous serons en responsabilité, comme l'est M. Darmanin, eh bien nous mettrons en place des mesures qui sont radicalement différentes des siennes.
Bien. Ça promet, François-Olivier Gisbert, ce débat. Est-ce qu'il va être constructif et utile quand même ?
Oh ben non. Aucune chance, quand on voit le ton d'ailleurs de l'un par rapport à l'autre, enfin, c'est impossible. Mais,
J'ai reposé ma question, est-ce qu'il a une utilité pour le débat politique ?
Oh ben, le débat est toujours utile, simplement il y a des débats de chiffonniers, il y a des débats de fond, enfin, il y a différents types de débats, mais moi je suis tout à fait pour le débat, il ne faut pas me faire dire le contraire, mais en même temps c'est sûr que je ne crois pas ce débat a un très très grand intérêt. Mais j'entendais votre présentation...
Ils ont quand même intérêt tous les deux à ne pas s'écharper et à être vraiment dans le débat d'arguments et le débat d'idées.
Oui, mais ils ne vont pas sortir leurs cartes. Il y aura beaucoup de... Forcément, Marine Le Pen a intérêt à déglinguer au maximum Gérald Darmanin parce que c'est un atout maître dans le jeu d'Emmanuel Macron. Forcément, de l'autre côté, Gérald Darmanin a intérêt à montrer que... Enfin, donc, vous voyez ce que je veux dire, oui, les cartes, oui. Ce type de débat n'est pas passionnant, mais cela étant... Moi, je trouvais intéressant dans votre présentation l'idée que, voilà, est-ce que ce n'était pas le débat de la présidentielle, c'est-à-dire Macron-Le Pen, que tout le monde attend au second tour. Moi, je dis simplement, là, méfiez-vous, Michel Cotta et moi, on est bien placés pour le savoir, il faut se méfier des duels décidés d'avance. Hein, parce que les Français, ils aiment bien apporter leur petite surprise, oui, à la fin. Oui. Et je ne suis pas sûr qu'on aura forcément un deuxième tour Macron-Le Pen.
C'est vrai, mais souvenez-vous, en 2016, on avait déjà dit ça. Et en 2017, finalement, à la présidentielle, ça s'est terminé. Duel Marine-Le Pen-Emmanuel Macron.
Enfin, je ne pense pas que vous faisiez partie de ceux, en tout cas moi pas, et je pense Michel Cotta non plus, qui prévoyait un an auparavant
non,
que Macron serait candidat au second tour. Voilà,
pas
c'est ça que je voulais dire, simplement.
Michel
Cotta.
Mais
c'est vrai que ce débat est intéressant parce que chacun a intérêt à être plus fort que l'autre. D'abord, Marine Le Pen, elle a dans sa tête le souvenir du débat présidentiel perdu. Donc, quelque
raté.
Part, elle veut montrer...
D'ailleurs, elle en a parlé par la
beaucoup
suite.
Plus, il paraît qu'elle l'a beaucoup plus préparé, ce débat, oui, contre Darmanin, qu'elle avait préparé, finalement, le débat contre Macron.
Bon, c'était une lourde erreur. C'est une lourde erreur. C'est facile de le préparer plus. Hein, non.
Et en revanche, Darmanin, il a intérêt à montrer qu'il est au front des problèmes, au front, comme un bon combattant,
oui,
sur les problèmes... régalien, c'est-à-dire sur les problèmes qui ont été jusqu'à présent les plus lointains de la pensée de Emmanuel Macron, mais qui deviennent essentiels.
Oui.
Donc au fond, il veut démontrer que sur cette lutte-là, il est le premier.
Mais justement, comme c'est une critique qui revient régulièrement de l'opposition, le manque de fond de Marine Le Pen, son manque de travail, comme vous venez de le souligner, Claire Chartier, elle a quand même intérêt à jouer le débat d'idées plus que l'outrance ce soir.
De fait, l'outrance, elle ne la joue pas beaucoup, hein, moi, je trouve.
Hein, ah non, au contraire.
Depuis pas mal de temps, elle est très mezzotono. Elle est un peu... Bon, là, elle est quand même plus...
Non, mais en miroir de ce qui s'était passé face à Emmanuel Macron. Mmh. C'est à ça que je faisais référence.
Oui, mais de fait, effectivement, je pense qu'elle a évidemment tout intérêt à être pertinente. D'autant que les sondages... Il y a un sondage qui est sorti récemment sur la lutte contre le séparatisme,
oui,
et qui la créditait d'un avantage, c'est-à-dire que les Français considéraient qu'elle était mieux à même d'incarner celle qui pouvait lutter contre le séparatisme que Emmanuel Macron, même si la différence n'était pas très nette. Donc là, effectivement, dans ce débat, à la fois elle joue sa carte évidente, parce qu'en plus c'est quand même la matrice de sa stratégie électorale, et puis Gérald Darmanin, en fait, il incarne aussi... en fait, c'est un test aussi pour Emmanuel Macron,
oui,
via Gérald Darmanin, parce que c'est quand même un ex-Sarkozy boy qui a été placé à l'intérieur pour incarner cette stratégie plus droitière sécuritaire. Et donc, on va pouvoir, et ils vont pouvoir voir du côté d'Emmanuel Macron, si ça fonctionne, si ça passe et si c'est pertinent, auprès d'un électorat, d'un certain type d'électorat, parce que la télévision, comme Michel Cotta le sait bien, les spectateurs ont quand même une moyenne d'âge assez élevée. Je crois que c'est à peu près 60 ans en moyenne aujourd'hui.
62 ans, oui.
62 ans, voilà. Vous le savez beaucoup mieux que moi. Et du coup, c'est aussi ce type d'électorat senior qui est
mais
plus
ce sont
sensible.
Les gens qui votent. Oui. Mais
ce sont, et je vous l'avais enlevé de la bouche.
Au dernier,
en tout cas, c'est ceux qui votent le plus.
Plus que les jeunes, franchement.
Exactement. C'est ceux qui votent le plus et qui sont sensibles à ces thématiques. Donc, il y a vraiment un intérêt quand même, la stratégie.
Oui, et puis ça reste un échantillonnage, même si l'émission fait une audience d'enfer. primaire, ça reste un échantillonnage assez, assez microscopique par rapport à l'ensemble du, des votants français. Ça peut avoir une incidence quand même sur la perception des Français, sur tel ou tel ce type de débat.
Il peut y avoir un faux pas, bien sûr. Surtout que Marine Le Pen, on voit très bien, son jeu, c'est d'attendre. D'ailleurs, elle est très bonne dans cette phase-là. C'est-à-dire, elle parle pas, elle parle peu. Et je dirais même mieux que ça, elle se comporte un peu comme un chef d'État dans les grandes occasions, cette façon de parler, toujours dans le rassemblement. Donc, elle a plus à perdre dans ce débat que Gérald Darmanin, c'est clair. Oui. Mais elle peut montrer aussi que, quand elle a travaillé un peu, elle peut débattre. Je pense que c'est aussi c'est une sorte de revanche, de match revanche après le débat raté face à Macron.
Mais d'autant que Gérald Darmanin, il a aussi une carte, lui, très personnelle. C'est que ce sujet-là de l'islam, il le connaît quand même bien. Il a fait un plaidoyer pour l'islam qui comportait beaucoup d'éléments quand même importants sur cette question-là. Donc il sait quand même de quoi il parle.
Il y a un élément qui mettra sans doute en avant Michel Cotta. Ouais. Dites-moi si vous êtes d'accord. C'est aussi son rapport aux Français. On connaît le parcours de Gérald Darmanin.
C'est très Français, intéressant parce que
c'est un Français qui vient du Nord, élu de Tourcoing.
C'est exactement le contraire d'Emmanuel Macron.
Et qui vient de la France d'en bas, pardon
c'est
pour
l'expression. C'est le contraire d'Emmanuel Macron. Quand on les compare, ils sont jeunes tous les deux.
Et le contraire de Marine Le Pen aussi, de ce point de vue-là.
Absolument, mais un, origine tout à fait plus que populaire, entrée au RPR, aux jeunesses de RPR à 16 ans, un grand parcours politique, quelqu'un qui s'est accroché depuis le début, tandis que ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, donc élu sur une vague. Mais donc, il y a un côté plus ancré dans les territoires de
Darmanin.
Il va
la jouer, cette carte-là, et sur lequel, en disant « Moi, la France, je la connais mieux que vous, Madame Le Pen, peut-être. »
Sur lequel il est très compétitif avec Marine Le Pen.
Oui.
Et surtout, à un moment donné, où quand même, autour de Marine Le Pen, un état-major est quand même un peu écarté, et où certains disent « Ah, tant qu'elle sera là, elle gagnera jamais. »
Vous y croyez, vous, François-Olivier Gisbert, à la perspective d'une Marine Le Pen qui sortirait victorieuse d'un second tour à l'élection présidentielle? Enfin, je veux dire, c'est possible, parce que jusqu'à présent, on nous a toujours dit, les sondeurs nous ont toujours dit, c'est impossible.
Mais c'est possible.
Ça ne peut pas arriver.
Bon, je fais partie de ceux depuis longtemps, on n'est pas nombreux, mais je remarque qu'il y a de plus en plus de monde qui pense que c'est possible. Je n'ai pas dit du tout qu'elle allait gagner, parce que de toute façon, on est tellement loin encore de l'échéance. Mais il y a une possibilité, d'abord, il y a une possibilité parce que son image a un peu changé. C'est-à-dire, elle fait plus du tout aboyeuse, elle joue vraiment le chef d'État. Et puis, en face, ça dépend aussi qui aura en face. Si Emmanuel Macron est très abîmé par la crise, ça risque d'être compliqué. Donc, on est dans une période d'énorme incertitude. Mais il y a quelque chose que je veux dire par rapport au jeu de Darmanin et de Macron. C'est que Emmanuel Macron, il joue bien jusqu'à présent, il a bien joué. C'est vrai que Darmanin, c'est une très belle carte. Parce qu'on voit bien ce que disait bien Michel, c'est qu'il y a vraiment toute une histoire, il y a un storytelling. Quoi. Mm. C'est le type qui vient de la France d'en bas, comme on le disait, je crois qu'on ne le dira jamais assez, et qui est resté là. On voit très bien qu'il est très proche. Mais il y a un petit problème, c'est que c'est encore une histoire de triangulation. C'est-à-dire que, vous savez ce que c'est la triangulation? C'est un truc, ça existait en France avant, mais ça a été très bien formulé par un conseiller de Bill Clinton qui s'appelait Dick Norris. Et c'est l'histoire du triangle, il y a la gauche et la droite, et nous on va se tenir au milieu. Bill Clinton, qui était un président des États-Unis extrêmement populaire, il a très bien su jouer là-dedans, et il a d'ailleurs complètement asphyxié ses adversaires en utilisant tout ce qu'il pouvait dire de mieux. Allez hop, il le prenait. Et donc, le problème de Macron aujourd'hui, c'est qu'il triangule la droite avec Darmanin.
Oui.
Il triangule les écolos, parce qu'on l'a encore vu hier, c'est absolument incroyable. Il triangule, il a raison d'ailleurs là-dessus, je ne dis pas qu'il a tort. Et puis, il triangule, il est obligé aussi, il va trianguler la gauche, parce que la gauche, pour l'instant, elle est par terre. Enfin, elle peut se reconstituer. Elle est en parterre en grande partie parce qu'elle a été absorbée par les macronistes. Donc,
mais ça peut marcher, parce qu'il
y a toujours un moment donné, on risque de se prendre les pieds.
Après toutes les crises qu'on traverse, la crise du Covid, la crise sociale qui arrive, la crise des gilets jaunes, les Français ont peut-être aussi besoin d'un cap clair.
Voilà, et c'est ce que j'allais dire. Là, vous m'avez enlevé ça de la bouche, mais c'est exactement, on arrive à un moment où il peut se prendre les pieds. En même temps, il est très doué. On a un président très doué, donc... il est très doué, il peut retomber toujours sur ses pieds, mais il va peut-être rentrer dans un cap plus difficile qu'il le croit.
Puisqu'on parle de la triangulation et de la gauche, et que vous vous posez la question, est-ce qu'elle peut être élue, beaucoup dépend justement du vote de la gauche et de la gauche extrême au moment des au moment d'un duel entre Macron et Marine Le Pen. Si vous avez la moitié de la gauche mélenchonienne qui s'abstient.
Non, mais ça, c'est vrai que ça peut changer parce qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui disent maintenant le Front républicain.
Et sans être à l'extrême. On voit bien que dans la haine, en tout cas, l'extrême gauche et l'extrême droite se rejoignent. Oui. Alors jusqu'où se rejoindront-ils ?
Non, mais ce qui change par rapport à la précédente présidentielle, c'est que la détestation, elle se porte à la fois sur Marine Le Pen dans un certain type de l'électorat et sur Emmanuel Macron. Là, c'est à mon avis, c'est ça une des clés. Des futures présidentielles, c'est celle-là. C'est pas du tout la même chose.
Celui qui déplaira le moins.
Exactement. Donc on n'est pas du tout dans la même configuration.
Et d'ailleurs, on voit mal Jean-Luc Mélenchon, s'il est candidat, demander à ses électeurs de faire Front républicain en votant pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Voilà, tout est là. 18h44, on se retrouve dans quelques secondes. Bah tiens, justement, on va parler de Jean-Luc Mélenchon qui veut aussi ce soir jouer les troubles fêtes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h46, la suite du débat des grandes voix du jeudi. Avec toujours Michel Cotta, Claire Chartier de L'Express et Franz-Olivier Gisbert. Alors on parle maintenant, après le débat opposant Marine Le Pen et Gérald Darmanin, mais on va continuer aussi à en parler, on va parler du troisième homme. Et oui, le troisième homme, car pendant ce temps-là, il y aura Jean-Luc Mélenchon sur C8, invité de Cyril Hanouna. Il joue la contre-programmation en quelque sorte. Il y parlera, nous dit-on, écologie, démocratie, questions sociales et liberté. D'abord, je voudrais vous entendre sur la forme. Jean-Luc Mélenchon chez Hanouna, qu'est-ce que ça vous inspire ? Claire Chartier.
Je pense que là, il va tout à fait trouver son public. Hein. Hanouna est devenu un présentateur avec une vraie fibre politique. Il cible, enfin, il a en fait un public qui est un public populaire et jeune. Mmh. Et c'est tout à fait le public de Mélenchon qui, en plus, a déjà parlé. Enfin, il a l'habitude de parler à ce public-là.
Pardon, Claire, mais je ne sais pas bien quel est le public de Cyril Hanouna parce que généralement, c'est plutôt des politiques du Rassemblement National. Enfin, en tout cas, il y en a eu beaucoup qui sont venus chez lui. Il y a aussi des membres du gouvernement.
Oui, mais en tout cas, il a une vraie audience auprès d'un public populaire et plutôt jeune par rapport à, par exemple, d'autres émissions qu'on peut retrouver ou avec des animateurs aussi très connus qui, eux, vont plutôt attirer un certain type de téléspectateurs plus type Macron progressiste.
Chez Yann Barthès, par exemple, c'est ça ce que...
C'est deux publics très différents, en tout cas. Alors,
Michel Cotta, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Mélenchon chez
Hanouna ? C'est un public très populaire, donc c'est vraiment une démarche qui ne peut que convenir à Mélenchon, qui est toujours un peu provocateur.
Oui.
Mais deuxièmement, je vous rappelle qu'il n'est pas tout à fait en mauvais terme, Hanouna, avec le président de la République. Donc, il reçoit effectivement beaucoup de gens du Front National, mais souvent pour les contrer.
Oui.
Alors, est-ce qu'il contrera l'extrême gauche autant qu'il le contre l'extrême droite ? Ça, je ne sais pas.
Franz, sur la forme.
Oui, c'est vrai, d'ailleurs, à propos des musulmans, il a tenu des propos qui étaient très proches de ceux de Mélenchon.
Ah bah oui,
là, au moment de l'islamophobie, il est presque
mélenchoniste. Il parle beaucoup d'islamophobie.
Ils ont des points d'accord.
Ah oui.
Donc, je ne suis pas sûr qu'il passe un mauvais quart d'heure là-bas. Hein. Je pense que, d'ailleurs, Mélenchon a dû prendre ses précautions. Moi, je trouve ça normal. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, on fait de la politique, j'en fais pas. Il y a un public, comme disait tout à l'heure Michel. Eh ben on y va et puis on va vendre sa salade et c'est ça l'histoire quoi. On va la vendre même chez Hanouna.
Sans aucun jugement, il y a quand même un changement d'époque parce qu'avant il y avait des émissions. Enfin vous avez connu ça, France, y compris chez nous à France 2, il y a des émissions qui étaient statutaires.
Où on va pas.
Et puis il y avait des émissions où on n'allait pas. Maintenant il y a.
Il y en a plus depuis longtemps.
D'ailleurs les vannes n'ont pas fini de s'ouvrir parce qu'il y a encore un blocage sur Hanouna, mais à mon avis ça va se débloquer peut-être à l'occasion de la présidentielle.
Il y a pas mal de gens qui responsables politiques qui sont passés chez lui.
Oui, il y a eu des blocages sur Ardisson qui sont cassés au bout d'un certain temps, tout ça.
Voilà la forme. Sur le fond, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, avec cette contre-programmation, entend un peu jouer le rôle, on en parlait tout à l'heure, du troisième homme ? Est-ce que c'est ça qu'il est en train d'instituer ?
Si on lui disait qu'il est le troisième homme, il n'y croirait pas lui-même, il doit être le premier.
Il ne peut pas faire autrement, parce que Mélenchon, il a un problème, on voit très bien dans les sondages. Il est dans les choux, dans les sondages. Il fait la moitié de ce qu'il a fait à l'élection présidentielle. Donc c'est quand même très embêtant. Là, en plus, il est dans l'opposition, il n'y a aucune raison qu'il soit tombé aussi bas. Et il est tombé aussi bas à cause d'un changement de position.
Quand vous dites assez bas, c'est 6%.
C'est très bas.
C'est pour situer, c'est à peu
d'ailleurs,
près 6%.
D'ailleurs, c'est même plus que... Il est plus bas encore que... Puisque il était pratiquement à 20%. Mmh. Vous rendez compte un peu, c'est la descente aux enfers. Et ça, à mon avis, c'est à cause de ses prises d'opposition. C'est quelqu'un qui a toujours été républicain, très républicain, pour la laïcité, Et brusquement, c'est un peu « je suis le chef, je les suis », c'est-à-dire il a suivi ses troupes. Et ses troupes vont dans la direction inverse de celle qu'il avait suivie pendant des décennies.
Oui.
Donc, je pense qu'il y a un problème de oui, le message est un peu embrouillé. Donc, il va tout faire, évidemment, pour essayer de simplifier les choses. Et puis, vous savez, en politique, on peut changer d'avis. Et à force de répéter les choses, les électeurs finissent par oublier que vous avez changé d'avis. Mais c'est ça le problème de Mélenchon aujourd'hui. Mais alors, il y a quelque chose quand même qu'il faut dire sur son cas. C'est quand même, il est très, très doué. C'est le meilleur orateur de la classe politique. Il sait emporter les trucs. Peut-être qu'il va nous faire un bon numéro de précipitation qui fera que tout le monde oubliera l'incroyable mais volte-face de
vous
Jean-Luc
avez le
Mélenchon.
Sentiment qu'il a perdu du crédit avec ses prises de position récentes, Michel Cotta?
Oui, il a commencé à perdre du crédit. Vous vous rappelez, à l'occasion de sa bagarre avec ceux qui voulaient...
Oui.
La République, c'est moi.
La République, c'est moi. Comme lui a dit d'ailleurs
c'était
Darmanin.
C'est un coup qu'on lui faisait.
Ah non, comme lui a dit Darmanin beaucoup... l'autre jour à l'Assemblée nationale. Pardonnez-moi, vous avez dit que vous étiez la République, mais en ce moment, je le suis autant que vous. Bon, donc, il y a sûrement ça. Et puis, il y a quand même... on a pu parler à son propos et à propos de son groupe d'islamo-gauchisme. Alors maintenant, il se réfugie sur une position qui est pour toutes les religions. Ce qui est quand même comique pour un type que nous avions connu athée et athée militant. Mais enfin, donc vraiment, les gens ne savent plus. En plus, il avait dans les mains une carte formidable qui était à la rigueur de jouer la conciliation de la gauche. Il a vraiment joué la division.
Comme Michel, je pense qu'il aurait pu le faire. C'était vraiment l'homme qui pouvait le faire. C'est clair que tout ça, c'est par terre, c'est plus possible aujourd'hui.
Je pense qu'effectivement, il a été pris dans la contradiction parce qu'il est de son électorat qui est très sensible à ces questions de minorité et qui donc allait à l'encontre en fait, de sa culture.
Et ça fait que 6%, il est tombé à 6%.
Absolument, mais c'est vrai qu'il y a eu, moi-même, je l'ai croisé sur un plateau il y a des années où il avait une position qui était tout à fait celle que vous décriviez. Alors aujourd'hui, il rame un peu parce que donc il doit payer aussi sa participation à cette fameuse manifestation en 2019 du collectif contre l'islamophobie, qui est quand même...
c'était une faute politique majeure,
voilà.
Ça, bien sûr.
Donc qui est quand même lié, qui est proche des Frères musulmans. Donc c'est sûr que là, ça lui fait un boulet à traîner. Alors maintenant, il explique, pas trop mal d'ailleurs, d'une certaine manière, qu'il ne faut pas employer le terme islamophobique. Effectivement, c'est un mot piège. Et que lui, simplement, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut respecter toutes les religions et les gens qui croient à telle ou telle religion. Et que ce qui pointe, c'est la haine des musulmans.
Comment vous l'expliquez alors? Voilà. Ce virage, j'allais dire idéologique, ou en tout cas de posture de la part de Jean-Luc Mélenchon.
Je suis leur chef, il faut bien que je lui suive.
C'est ce que je veux dire. C'est vraiment, pour garder le contrôle de son parti, enfin, je m'avance quand je dis ça, mais c'est ce que je ressens en tout cas, il s'est mis sur les positions de la majorité de son parti. Il faut voir qui est Éric Coquerel, Clémentine Autain, etc. Oui. Ces gens-là n'étaient pas du tout sur la ligne de Mélenchon il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est lui qui s'est aligné sur eux. Et c'est ça qui est ce phénomène intéressant. Je pense qu'il n'est pas perdu pour autant, parce que c'est quelqu'un d'abord qui a beaucoup d'énergie et qui a, il faut le dire, un charisme certain.
Et le sens du rebond.
Qui a le sens du rebond. Et à un moment donné, il peut rebasculer. Mais il a intérêt à se dépêcher parce qu'il est
seul,
vraiment aujourd'hui dans les choux.
D'autant rebondir qu'il peut y avoir, après cette pandémie, ou même pendant, un printemps social ou un automne social.
Et il peut capter, lui, la colère sociale.
À mon avis, moi je ne suis pas sûr non plus, mais en tout cas, je pense que Mélenchon peut penser qu'il serait, dans ce cas, un des meilleurs à profiter de ça. Et pas l'extrême.
Michel a dit la chose juste, c'est qu'il pouvait être Mitterrand. Et c'est ça qu'il a un peu raté, là, dans cette période-là, indécise, avec une gauche qui ne savait pas
où
l'habiter.
En 2017, il pouvait tout faire.
En 2017, il avait une énorme... Enfin, il avait presque un boulevard devant lui. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et ça, c'est par sa faute, seul, pour complaire à son petit parti des Insoumis, qui était quand même une bande de
Et en partie sa personnalité aussi.
Oui. Je profite de votre présence. Il nous reste encore quelques secondes, François-Olivier Gisbert. Qui pour incarner la droite républicaine, qui pour incarner le rassemblement à gauche? Vous voyez qui, vous? Je dis ça parce qu'il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours, d'abord à droite, où c'est Xavier Bertrand qui, pour l'instant, fait la course en tête, même s'il est encore loin du compte. Et puis, il y a eu ce sondage, il y a quelques semaines, très décevant pour Anne Hidalgo, qui plafonne pour l'instant à seulement 6%. Alors, vous me direz, François Hollande était à 3% à un an et demi de la présidentielle. Qui vous voyez émerger?
Je répondrai, méfiez-vous des sondages. Alors, c'est sûr que là, aujourd'hui à droite, Xavier Bertrand fait la course en tête. Hein, je dirais même quelques longueurs d'avance, parce que je me souviens avoir entendu dans la bouche et de Mitterrand et de Chirac, quand on fait 15% dans les sondages, on peut être élu. Bon, bah, il est dans une position que Xavier Bertrand, où il peut être élu. Pas loin derrière, parce que c'est à quelques points derrière, Valérie Pécresse, donc elle est également dans le jeu. Après, plus loin, vous avez Laurent Wauquiez, bon, qui attend d'être réélu. Oui, mais enfin, on n'est jamais fini en politique, surtout quand on est jeune. Hein.
Oui.
Alors lui, il vous avait pas, il va rebondir, ça. Bon, il attend d'être réélu à la région Rhône-Alpes, et puis vous verrez qu'il refera parler de lui. Puis vous avez Bruno Retailleau derrière, mais enfin, de toute façon, le match, pour l'instant, c'est entre ces deux-là.
À 15%, c'est encore gagnable, parce que Nicolas Sarkozy aurait confié à Xavier Bertrand que s'il n'est pas à 19-21 d'ici l'été,
non.
C'est perdu d'avance.
Regardez, Chirac faisait à peine 19, arrêtez. Et alors, dernier point sur la gauche, la gauche, moi je suis désolé, je pense que Hidalgo a quand même des cartes, mais simplement la gauche, elle a un énorme elle a, comme pour parler le chiraquien, elle a un frelon dans la culotte. En l'espèce, ce sont les écologistes, et ces écologistes, ils feront tout pour empêcher la gauche. Je pense notamment au maire de Grenoble, Éric Piolle. Vous en faites pas, ils vont tout faire pour
c'est pour ça que la division reste, à mon avis, la chose la plus prévisible. Mélenchon ne veut pas renoncer à son numéro 1 dans la gauche. Anne Hidalgo ne peut pas accepter, naturellement, d'être numéro 2 sur une liste quelle qu'elle soit. Et les écologistes se bagarrent assez entre eux pour qu'on ne sache même pas qui sera candidat.
Il reste encore 14 mois. Un dernier mot, Claire.
Non, bah précisément, je pensais à Jean-Louis Borloo qui, paraît-il, est en train d'essayer à gauche de créer une grande coalition de gauche à l'allemande de façon
le retour de Jean-Louis Borloo.
Pour essayer, il fait ça en coulisses, pour essayer de proposer autre chose face à Emmanuel Macron et éviter ce duel Macron-Le Pen. Après tout ce que l'on vient de dire, ça semble compliqué.
Bon, affaire à suivre. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir analysé et animé avec moi les grandes voix du jeudi. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes, le journal, évidemment à 19h, et puis le grand débat du Club des Idées. Ce soir, on parlera du Made in France. Quel est le vrai prix du Made in France ? On en parlera avec nos invités. À tout de suite.
Europe 1, écoutez le monde changer.